Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. Sign up today at Cerebral.com/podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends April 30th. See site for details.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
I'm proud to offer premium wireless for just $15 a month. And I'm proud that we have thousands of five-star reviews from customers like Dan D in New York, who writes, "I am satisfied customer. How can this only be 15 bucks?" He wrote it in all caps. I needed you to feel it like he feels it. I hope I did that justice, Dan. And I hope that you try Mint too at mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 for 3 months required. New subscribers only. Renew for 12 months to lock in savings. Additional taxes, fees, and restrictions apply. See mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
C'est vrai que le fait d'être issu d'un couple mixte m'interroge pas mal sur mon désir de maternité. Parce que pour moi, ce qui fait vraiment le nerf de la guerre dans... le nerf de la guerre. C'est drôle comme expression pour parler de maternité. Ça en dit peut-être long sur moi. Ce qui en fait vraiment le centre, c'est la transmission, en fait. Je sais pertinemment qu'aujourd'hui, à 31 ans, j'en veux pas. Mais j'ai peur du réveil plus tard. S'il y en a un.
Vous écoutez « Tant que je serai noire », le podcast qui tente de répondre à la question « Tant que je serai noire, serai-je mère ?» Ici, vous trouverez des témoignages de femmes qui nous parlent de désir ou non-désir d'enfant et toutes les thématiques qui gravitent autour. Afin de donner encore plus de rayonnement à leurs témoignages, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous, de vos likes, commentaires et étoiles sur Apple Podcasts pour montrer que vous êtes nombreuses et nombreux à apprécier le podcast. Partagez et taguez le compte Instagram « Tant que je serai noire » dans vos stories et je repartagerai. Alors, quand on parle de désir ou non-désir d'enfant, il y a indirectement cette dichotomie qui nous vient à l'esprit. Oui, j'en veux. Non, j'en veux pas. Mais qu'en est-il de celles qui ne savent pas encore? Celles qui ont envie de mieux se connaître avant de répondre à la question? Celles qui, comme Ambre, mon invitée, ont une double culture, dont une méconnue, et qui sont dans une quête identitaire. Une quête identitaire nécessaire pour décider ou non d'enfanter, mais surtout qui permettra de transmettre leur histoire. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir le témoignage d'Ambre, une femme en pleine réflexion sur son identité, son féminin sacré et son choix de maternité. Bonne écoute! Bonjour Tipora. Alors pour commencer, je vais me présenter un petit peu. Donc moi je suis Ambre, j'ai 31 ans, je suis en couple depuis bientôt 10 ans. Je suis vraiment passionnée d'illustration et d'ailleurs j'ai un compte Instagram qui s'appelle Les Poseuses, pour lequel j'illustre des femmes en fait de toutes origines. Et disons que tant qu'il y aura des femmes, j'aurai un peu une source inépuisable d'inspiration. Et aussi et surtout, tant qu'il y aura des femmes racisées qui manqueront de représentation, ben moi je continuerai à les illustrer. Donc ça c'est ma première passion et j'en ai découvert une nouvelle récemment puisque je me forme à l'accompagnement du féminin. Donc pour t'en dire un petit peu plus sur mon enfance, je suis l'aînée, j'ai un frère qui a 2 ans de moins que moi. Je suis issue d'un couple mixte avec mon frère, on est tous les deux... enfant d'un couple mixte, donc ma mère est blanche, d'origine versaillaise, et mon père est noir, d'origine guadeloupéenne.
Donc, je suis née à Paris et quand j'avais environ 5 ans, on a déménagé en Haute-Savoie. Donc, mes parents n'ont vraiment pas fait les choses à moitié. Hein. C'était vraiment du tout au tout. Et pour ma mère, Versailles, c'était un peu complexe pour elle. On a été se percher sur une montagne à 1000 mètres d'altitude en Haute-Savoie. Et clairement, c'était un village, 30 habitants. On était clairement la famille Camini dans ce village. Et puis, moi, j'ai eu un peu l'enfance à la Heidi dans la campagne profonde parce que j'avais les vaches en haut, les chèvres en bas, le fermier avec qui ça dérangeait pas que j'aide à rentrer les vaches à l'étable. Enfin, voilà, vraiment Heidi. Donc, c'est principalement ma mère qui nous a élevés avec mon frère. Mes parents n'étaient pas du tout séparés, mais mon père travaillait vraiment énormément dans l'informatique. Et du coup, il rentrait tard le soir. Nous, on était soit déjà couchés, ou le matin, quand on se levait, il n'était pas encore réveillé, quand on partait à l'école. Donc, on a vraiment eu cette vie un peu en décalage de son mode de vie à lui. Et on a eu principalement, avec mon frère, une éducation blanche dans la majorité de notre construction, en fait. Les moments qu'on passait avec lui, c'était quand même les 2 semaines, en fait, auxquelles il tenait absolument. On partait en vacances ensemble à l'autre bout du monde, tous les 4. Donc ça, c'était un peu son deal à lui. Je ne suis pas là dans l'année, mais il y a 2 semaines où je me dédie un peu à vous. Mais malgré tout, il n'y avait pas cette transmission parce que je sais qu'on a été énormément en Guadeloupe, voir de la famille quand j'en avais encore. Et quand on allait dans ma famille, on passait des vacances de touristes, quoi. Jamais mon père nous a parlé de l'histoire de nos ancêtres ou quoi, de notre famille, de ce qui avait pu se passer sur ces terres, et jamais. Donc c'est vrai que moi j'ai eu un espèce de sursaut à la trentaine où je suis vraiment rentrée dans une quête de cette identité. Que, en fait, je cherchais à m'approprier parce que pendant des années, je l'ai un peu mise de côté, cette identité-là. Et puis, j'avais besoin d'une certaine résilience aussi avec mon père qui avait quand même été très dur. Donc, en fait, pendant des années, ça m'allait bien, en fait, de ne pas m'en occuper. Sauf qu'à 30 ans, j'ai vraiment eu un sursaut et je me suis dit, mais... Pour te construire, t'as besoin de savoir d'où tu viens et de connaître toutes tes parts et toutes tes facettes. Et donc j'ai dû chercher des réponses, quoi. Puis c'est vrai que mon conjoint, qui est lui franco-roumain, il est dans la même configuration que moi. Il a été élevé par sa mère. Il a vu son père entre 3 à 4 fois entre ses 2 ans et ses 18 ans. Donc c'est vrai qu'on rencontre en fait les mêmes questionnements. Lui aussi, il est très très peu renseigné sur ses origines roumaines, donc c'est vrai qu'on est dans une recherche, et par nos propres moyens, puisqu'on n'a plus de lien forcément, lui un petit peu plus avec son père, mais moi plus du tout avec le mien. Donc en fait, on est en train de faire un apprentissage par nous-mêmes. Mais c'est vrai que cette question d'avoir ou non des enfants dans mon couple, elle est quand même... on n'en parle pas énormément. Parce qu'on est assez sur la même échelle avec mon conjoint. On est un peu dans le même bateau. Lui se questionne tout autant que moi. Et en termes de transmission, on se demande vraiment ce qu'on pourrait apporter. Et en même temps, lui se dit qu'il a le temps. J'ai biologiquement moins le temps. Donc, il y a une autre question qui se pose. C'est le fait de se dire, OK, mais pour le moment, je ne sais pas si j'en veux. Mais peut-être qu'en fait, je me réveillerai dans 8 ans ou dans 9 ans, et j'aurai une grossesse tardive, mais ça se trouve, je serai hyper prête à ce moment-là, mais mon corps voudra plus ou pourra plus, et je vais peut-être tomber dans une désillusion abominable. Et... Donc c'est vrai que comme je ne peux pas avoir les réponses auprès de mon père, ben, j'ai été un peu obligée de trouver un peu les réponses par moi-même. Et du coup, à force de fouiller, ben, j'ai trouvé un site Et en fait, le site s'appelle Enchoucage, donc enchoucage.org. Et en fait, c'est vraiment un site mais fabuleux, où il y a eu un travail de titan qui a été fait par les bénévoles de l'association CM98. Et c'est vraiment un travail de dingue, où ils ont retrouvé les registres des nouveaux libres, donc des personnes qui étaient esclaves et qui, en 1848, dans les Antilles, donc Guadeloupe et Martinique, ont été annoncés nouveaux libres. Et en fait, il y a vraiment un énorme travail de recherche sur toute l'histoire coloniale qui peut se cacher derrière les noms que l'on porte encore aujourd'hui. Et que nous, descendants guadeloupéens et martiniquais, on a encore à ce jour. C'est vrai que le fait d'être issu d'un couple mixte m'interroge pas mal sur mon désir de maternité. Parce que pour moi, ce qui fait vraiment le nerf de la guerre dans... le nerf de la guerre. C'est drôle comme expression pour parler de maternité. Ça en dit peut-être long sur moi. Et ce qui en fait vraiment le centre, c'est la transmission, en fait. Et moi, à l'heure actuelle, je ne sais pas, en fait. Je suis vraiment à 50-50 sur le fait de vouloir ou de ne pas vouloir d'enfant. Je reste un peu bloquée dans cette question. Puis j'ai 31 ans, donc l'âge approche. Sauf que la transmission du côté de ma mère, ok, je la connais bien. Mais du côté de mon père, toutes mes origines noires, toutes mes origines guadeloupéennes, là j'ai vraiment plus de mal à les connaître. Et c'est assez douloureux pour moi depuis qu'en fait je me questionne sur d'où je viens. Et du coup, malgré le fait que je sois perçue comme une femme noire dans la société, j'ai une éducation blanche et je me sens un peu perdue avec cette identité noire et j'aimerais beaucoup plus pouvoir la revendiquer, pouvoir m'en imprégner et qu'elle m'anime davantage, en fait. Et c'est vrai que la transmission, quand on est issu d'un couple mixte, mais qu'on a quand même manqué d'une certaine part, et ben on est un peu obligé de trouver des solutions et des moyens d'avoir des réponses, en fait. Et comme je n'ai plus de contact avec mon père, je ne peux pas vraiment obtenir ses réponses. Et comme j'ai parlé quand même un peu de résilience, c'est vrai que pour le moment, je ne me sens pas encore prête à retourner en Guadeloupe. Même si je n'ai plus de famille, je pense que je pourrais toujours trouver des personnes qui pourraient me renseigner et qui seraient heureux, en fait, de partager cette culture-là avec moi. Et donc voilà, pour le moment, je chemine encore. Et quand je me serai prête, je me lancerai à la découverte de mon identité pour pouvoir la transmettre si un jour je décide d'avoir des enfants. Je sais pertinemment qu'aujourd'hui, à 31 ans, j'en veux pas. Mais j'ai peur du réveil plus tard, s'il y en a un. Et c'est vrai que c'est quand même des questions importantes et j'ai un peu l'impression de jouer... Avec le feu et avec ma relation, ça fait presque 10 ans maintenant qu'on est ensemble avec mon conjoint et c'est une relation trop belle. Mais parfois on se demande est-ce qu'on perd pas notre temps, est-ce qu'on continue de jouer avec le feu alors qu'on s'aime tellement que la réponse est ok, on joue au coup de poker. Mais c'est vrai que le fait de pas savoir ça pose une autre difficulté à la question. Il y a un onglet où on peut en fait taper son propre nom de famille pour voir si on retrouve un aïeul. Donc moi, je me suis tentée à l'expérience et j'ai tapé mon nom de famille. Et là, j'ai trois noms d'hommes qui sont ressortis. Donc déjà, j'étais hyper émue de voir que trois personnes avaient été recensées sur le site internet et que les trois portaient plutôt le même nom de famille qu'eux. Et en fait, mon regard s'est vraiment porté et mon attention s'est vraiment portée sur un homme de 39 ans qui s'appelle Pierre. Et en fait, cet homme, il a été enregistré nouveau libre le 2 novembre 1848 au Moule, là où ma famille a toujours vécu. Et le jour où j'ai découvert ça, mais j'ai été tellement émue. C'est bizarre, hein, parce que c'était vraiment mes quatre lignes sur un site internet. Ça a apporté en fait une nouvelle pièce à mon puzzle identitaire. J'ai mon puzzle, je cherche à imbriquer des pièces dans tous les sens et un jour, clac, il y en a une qui se positionne parfaitement, sans forcer. Et ça m'a fait vraiment, vraiment du bien en fait d'avoir quelques réponses, même si ça soulève de nouvelles questions, mais vraiment ça m'a beaucoup émue. Mais ça me pose de nouvelles questions parce que je peux pas me contenter de quatre lignes. Qu'est-ce que je vais transmettre de mon histoire en fait? Et qu'est-ce que je vais pouvoir raconter à mes enfants? Ils vont aussi devoir se contenter de quatre lignes. Donc c'est vrai que c'est dans la transmission, ça reste. C'est vraiment cher à mon cœur la transmission. Pour transmettre à mes enfants, je pense que d'abord, j'ai un grand travail à faire sur moi-même et j'ai des réponses à aller chercher. Et il va falloir que je me déplace, il va falloir que je questionne. J'ai renoué il y a peu avec, depuis quelques petites années, on se voit de temps en temps avec mes cousins aussi, du côté de mon père, qui ont le même âge que moi. Et déjà, c'est une première étape, parce que c'est une première porte, en fait, pour obtenir des réponses. Et puis du coup, j'ai ma tante, du coup. Donc j'ai pas encore pris le temps d'aller questionner. Et puis je sais pas, même si elle aura envie de me répondre ou pas. Mais voilà, je chemine lentement. Mais pour pouvoir transmettre toutes mes parts et toutes mes facettes à mes enfants, il va falloir d'abord que je les découvre. Et puis peut-être qu'une fois, en fait, que j'aurai tout découvert, et bien peut-être qu'en fait, là, je vais savoir intimement, je ne serai plus du tout à 50-50, mais je serai vraiment intimement persuadée si oui, je veux des enfants, ou si non, je n'en veux pas. Ça solutionnera peut-être la question, finalement. L'importance des prénoms dans la transmission et l'identité des personnes racisées, c'est vrai que je trouve que ça peut, c'est vraiment très très beau d'avoir un prénom empreint de sa culture. Je trouve ça magnifique. Je trouve que c'est un symbole hyper fort et très positif et c'est une vraie fierté en fait de représenter une petite partie de son histoire culturelle. Je trouve ça superbe. Et je sais que, par exemple, là, dernièrement, sur les réseaux, j'ai rencontré une fille qui s'appelle Asli. Et c'est un prénom qui est d'origine turque. Et je trouve que c'est trop beau. Son prénom signifie « qui règne sur le ciel et la terre ». Et je me dis « waouh ». C'est sublime. C'est sublime de porter un prénom qui est déjà peu commun en France. Et en plus, qui a une si belle signification. Non, vraiment, je trouve ça important, en fait, de donner des prénoms qui sont quand même empreints de notre culture. Je trouve ça beau, en fait. Mais c'est vrai qu'après, dans la société dans laquelle on vit, ça peut être difficile. Ça peut être vraiment difficile si on n'a pas un prénom bien français. On peut faire un petit clin d'œil à notre cher ami Monsieur Z, qui fait tout le temps des frasques au sujet des prénoms. Mais voilà, tant qu'il y aura des gens peu ouverts d'esprit, ce sera toujours plus difficile d'avoir un prénom dans un monde un peu où le racisme est systémique. Ça sera forcément plus délicat, mais ça n'empêche pas en fait de le porter fièrement, vraiment.
Voici un extrait de l'article de la blogueuse Fatou Ndiaye. Je m'appelle Fatou, ça vous pose un problème? C'est un article paru le 1er juillet 2016 dans le journal HuffPost. Le prénom de Fatou a plusieurs déclinaisons, comme Fanta, Fatoumata, Fatimata, Fatoumatou et Fatim chez les Africains de confession musulmane des pays d'Afrique de l'Ouest en général. Fatou est l'équivalent de Fatima chez les Arabes. Pour faire un bref condensé, Fatima Zahra était le prénom de l'une des filles du prophète Mohammed. Elle était sa fille préférée. qu'il surnommait la reine du paradis. C'est un prénom très respecté dans l'islam, mais pas que. Derrière ce prénom se cache tout un symbole, comme l'est celui de Marie chez les chrétiens. C'est pour cette raison que dans des familles musulmanes, l'aînée ou une des filles porte souvent ce prénom de Fatou ou Fatima. La première fois que j'ai été confrontée à une moquerie sur mon prénom, j'étais en classe de CP. Je m'en souviendrai toute ma vie. Il y avait une rediffusion d'un célèbre film français de l'époque. Nous étions en 1984 et sur TF1 passait le film « Le coup du parapluie » avec l'acteur Pierre Richard. Jusque-là, pas de quoi fouetter un chat. Le lendemain, à la récréation, des élèves de ma classe se sont mis à chantonner une musique du film en la revisitant avec mon prénom. Fatoumatou, le ragoût de mon toutou, j'en suis fou.
Mon rapport avec ma maman est plutôt cool. Elle nous a élevés, on est assez fusionnels, je suis assez fusionnelle avec ma mère et c'est vrai qu'il y a un vrai lien qui s'est lié. Mais ça va, elle est cool avec la maternité. Elle m'a posé une fois la question et je lui ai dit que pour le moment, je n'étais pas prête. Et donc ça va, elle respecte vachement mes choix depuis toujours. Hein. Ma mère respecte les choix de ses enfants et ça, c'est un véritable accompagnement. C'est le meilleur qu'on puisse avoir, je trouve. Donc en fait, devenir accompagnante du féminin, c'est accompagner des femmes à tout moment de leur vie, quand elles en ressentent le besoin. Donc ça peut très bien être à l'adolescence, lors de sa vie de femme, lorsqu'on a un changement dans sa vie, une nouvelle direction à prendre, un désir ou un non-désir d'enfant ou à la ménopause. Donc ça peut être plein d'étapes. Et c'est vrai que c'est une activité qui fait complètement partie du féminin sacré, de la mouvance qui est en train d'arriver ces dernières années. Donc, pour dire quelques mots sur le féminin sacré, c'est vrai que, en fait, le féminin sacré, c'est une invitation, en fait, à se reconnecter à soi, à sa source, à ses sensations, à ses émotions. En fait, pour accepter toutes nos facettes, celles qu'on considère comme bonnes, celles qu'on considère comme moins bonnes, il faut les accepter. Et le féminin sacré, c'est ça, c'est s'assumer pour être épanoui. Et si on est épanoui, du coup, on est libre d'être authentique. C'est vrai que pour accéder à tout ça, on entre dans un cheminement qui aussi un peu entre bien-être, féminisme et spiritualité. Donc moi, je me forme en fait à accompagner des femmes pour leur proposer des pratiques, des rituels, des exercices, des méditations. Donc ça remplace absolument pas une thérapie, hein. Si la femme que j'accompagne est en train de suivre une thérapie avec un psychologue ou un psychiatre, moi je suis simplement la femme qui viendra en soutien, qui est là pour lui tenir la main, pour lui proposer des techniques qui sont douces, qui sont alignées avec elle-même pour qu'elle puisse enfin remettre un peu ses désirs et ses choix au centre de sa propre vie. Donc pour moi, le lien entre féminin sacré et maternité est vraiment intrinsèque, c'est vraiment lié en fait. Et ça résulte le féminin sacré, ça s'inscrit en fait dans un chemin où la femme est remise au centre de son propre monde. Elle est valorisée pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle pense, pour ses choix, pour ses désirs. C'est ça le féminin sacré. Donc en fait, peu importe ce que la femme désire, tant qu'elle fait ce qui est bon pour elle, en fait. De toute manière, elle est la seule à savoir profondément ce qui lui convient de faire pour être épanouie. Elle est la seule à détenir les clés. Donc, le rôle du féminin sacré dans la maternité, en fait, il est très proche du travail que peut faire une doula, par exemple. Une doula, elle est à l'écoute d'une femme. Elle lui propose des solutions qui sont douces, des solutions qui sont naturelles, qui sont alignées avec ses besoins. En fait, elle fait au mieux pour, la doula fait au mieux pour qu'elle passe la meilleure grossesse possible hors champ médical. Vraiment médicalisé. Là, on est vraiment dans l'attention pure et simple. Et le féminin sacré, c'est vraiment se donner de l'attention pour être épanoui et pour être à l'écoute de soi. Donc c'est totalement lié, le féminin sacré et la maternité sont totalement liés. Là, on entre dans un système maintenant où on va accoucher à la maternité, à l'hôpital ou en clinique, et on accouche toutes de la même manière. Et maintenant, on voit de plus en plus de femmes qui décident en fait de mettre au monde leur enfant à la maison, avec l'aide d'une sage-femme, d'une doula, ou aussi qu'il y a en fait des maisons de naissance qui fleurissent de plus en plus. Parce qu'en fait, c'est une nouvelle manière d'accompagner les femmes en se souciant réellement de leurs besoins. Et si on prend un peu des études qui sont un peu plus poussées dans le fait de banaliser un peu les actes qu'on fait dans les hôpitaux ou dans les cliniques qui sont pas du tout en lien avec le féminin sacré, ben on a par exemple l'épisiotomie. Et en fait, on se rend compte que c'est une pratique qui est devenue mais complètement banalisée depuis les années 1920. Et en fait, il n'y a aucune étude qui prouve à ce jour son efficacité. Et au contraire, il y a même l'université du Michigan qui a même prouvé son inefficacité et ses effets néfastes. Ses effets néfastes parce que ensuite, la femme qui a subi ça, elle a très souvent une mauvaise image de son propre corps. Elle vit aussi une sexualité qui est moins épanouie. Elle a une cicatrisation qui est plus douloureuse, des œdèmes. Enfin, voilà, ça peut vraiment être plus complexe. Et c'est vrai qu'en plus, quand on se dit que lors d'un accouchement, on demande que dans 17% des cas, à la maman, si elle est OK pour qu'on pratique cette opération, en fait. Ça veut dire qu'en fait, il y a 83% des mamans restantes, on s'en fiche, on les prévient pas. On se dit, c'est bon, c'est mieux pour le bébé, OK.
L'épisiotomie est une intervention qui consiste à inciser le périnée lors de l'accouchement pour faciliter la sortie du bébé et éviter les déchirures graves spontanées. Le périnée est un groupe de muscles et de ligaments situés entre l'anus et le vagin, qui constitue une sorte de hamac accroché entre le pubis et le coccyx. Il joue un rôle crucial dans la continence urinaire et anale et soutient les organes situés dans le bassin. Lors de l'accouchement, le périnée est considérablement étiré et peut se déchirer de façon plus ou moins superficielle et importante. L'épisiotomie a longtemps été pratiquée à large échelle, dans presque un accouchement sur deux dans les années 90 et même dans 70% des cas en France pour les premiers accouchements. Son rôle est aujourd'hui largement remis en question, comme l'explique Ambre. Plusieurs études ont en effet montré qu'une pratique restrictive de l'épisiotomie permet d'augmenter le taux de périnée intact sans augmenter celui des déchirures sévères.
Bien sûr qu'il y a des cas dans lesquels c'est mieux pour le bébé. Mais en fait, il y a d'autres cas. C'est vrai qu'en fait, maintenant, je donne un exemple tout bête, mais je me cogne, par exemple, sur le coin d'une table, l'orteil. Je me blesse. Mon premier réflexe, ça va être de regarder, de constater le problème. De pouvoir me dire, est-ce que je me prodigue des premiers soins avant de consulter, si j'ai un souci. Voilà. Ça va être la base. Tout le monde va faire ça. Et en fait, quand on a un souci gynéco, maintenant, non. On se dit juste, je vais prendre rendez-vous sans tarder auprès du gynéco, il va regarder. Mais en fait, la puissance du féminin, elle est là. Elle est là dans le fait de ne plus avoir honte de notre féminité et de se réapproprier nos corps, en fait. D'autant plus quand on a un corps racisé, parce qu'il est parfois d'autant plus malmené par la médecine, en fait. Alors, est-ce qu'on peut être femme sans être mère? Pour moi, on est femme, quoi qu'il arrive. À partir du moment où on se ressent femme, on est femme. On n'a même pas de justification à donner à quiconque, en fait. Par contre, pour moi, je pense vraiment qu'on peut être mère sans enfanter. Parce qu'en fait, quand on revient au féminin sacré, donc il y a une vraie différence entre la féminité, qui est en fait le corps, l'enveloppe extérieure. La féminité, c'est vraiment... l'apparence qu'on peut avoir, l'envie de plaire ou de pas plaire, voilà, c'est vraiment l'apparence extérieure. Et le féminin, c'est l'intérieur, c'est l'impalpable, c'est les énergies. Donc en fait, quand on parle de féminin et qu'on pense aux énergies, ce qui caractérise l'énergie féminine, en fait, c'est la création. Et en fait, on est, en tant que femme, en tant qu'être humain en accord avec son féminin, quand on a des projets, quand on est dans la création de son art, dans sa profession, qu'on est investi dans une asso ou dans la transmission avec ses neveux, ses nièces, ses cousins, cousines, ses voisins, ses voisines. On est en fait en train de partager dans des domaines créatifs, donc dans des domaines que l'on crée. Et en fait, ce sont des petits bouts de nous qu'on fait perdurer dans un ailleurs à travers quelqu'un d'autre. Et, si, et ça, c'est une forme d'enfantement, en fait. Donc pour moi, on peut réellement être mère sans enfanter. Et moi, j'adore cette image parce qu'en fait, elle me libère d'un énorme poids et elle me conforte beaucoup dans le fait de m'écouter, en fait, et de rester alignée avec mes désirs sans céder au poids, en fait, que la société pourrait faire peser sur moi si je décidais de ne pas avoir d'enfant. C'est un poids qui se lève pour moi, de me dire que j'ai le choix, parce que quoi qu'il arrive, je pourrais être mère d'une manière ou d'une autre, même sans enfanter. Quels seraient du coup les conseils que je pourrais donner aux femmes qui doutent de leur choix de maternité? Je suis pas forcément la meilleure pour aider les femmes qui doutent, puisque moi-même je doute. Mais je dirais que je pense avoir quelques éléments de réponse. Et d'abord apprendre à se connaître et puis regarder réellement en face ce qui pourrait nous faire peur. Voir si on peut solutionner ce qui nous fait peur. Si c'est, pour moi, c'est une quête identitaire, donc OK. Dans ce cas-là, c'est ça qu'il faut que j'aille solutionner. Après, si ce sont des plus gros problèmes, dans le sens où c'est quelque chose d'incontrôlable, type on ne veut pas d'enfants à cause de l'écologie et parce qu'on est déjà 7,7 milliards sur Terre et qu'en 2050, on sera presque 10 milliards. Bon. Là, c'est une autre question, c'est un autre choix. Après, c'est un choix éclairé qui ne regarde que la personne qui fera ce choix. Et au fond d'elle, elle saura ce qui est bon pour elle ou non. Donc, disons que le meilleur conseil que je pourrais donner, ça serait de réellement s'écouter en conscience. Vraiment prendre un moment pour soi et regarder un peu ce qu'on a à l'intérieur pour se questionner et pas donner une réponse parce que les carcans de la société nous demandent de faire des enfants à la chaîne. Non, non. Parce qu'une fois qu'on en a un, on nous dit « Ah, et le deuxième, et le troisième ?» Donc, non. Faire des choix éclairés pour soi. On est les seuls à avoir les réponses. Et les réponses que l'on donne sont les meilleures que l'on pourra avoir pour nous. Donc, c'est celles-ci qui valent le coup d'être écoutées. Alors, la chanteuse afrodescendante qui m'inspire le plus, c'est vraiment Alicia Keys. Je l'adore. Et il y a une vieille chanson que j'adore, c'est Superwoman. Et cette chanson, si j'ai un petit coup de mou, je me la mets et c'est comme un mantra pour moi. Ça me remet une patate de fou. Et puis en plus, j'adore la femme qu'elle est, Alicia Keys, je la trouve phénoménale. Elle a deux enfants en plus et lors de sa deuxième naissance, elle n'était même pas sûre de savoir si elle gardait ou non, si elle avortait ou non de son deuxième enfant. Et l'histoire raconte qu'un soir, elle a été au studio d'enregistrement et qu'elle a écouté le titre qu'elle a coécrit avec son mari qui s'appelle More Than You Know. Et en fait, les paroles disaient « Nous sommes capables de bien plus de choses que nous imaginons ». Et en fait, elle qui était complètement en proie au doute à savoir si elle avait son enfant maintenant parce qu'elle lançait un nouvel album, qu'il y avait sa carrière qui allait repartir sur les chapeaux de roue, qu'elle ne savait pas si elle allait pouvoir se dédier à lui, à son enfant, et à lui donner toute l'attention dont il avait besoin et qu'elle aurait envie de lui octroyer. Ben en fait, bam, Elle a écouté cette chanson, boum, elle a eu une révélation et c'était bon. Elle a écouté son instinct et elle a pris sa décision et elle a décidé de garder son enfant. Et en fait, j'aime trop cette histoire parce que peu importe le choix qu'elle aurait fait, bah en fait, elle est en pleine conscience. Elle a juste choisi ce qui était le meilleur pour elle. Et moi, j'aime trop les histoires comme ça, les moments d'authenticité où juste, en fait, on, peu importe ce que les autres peuvent avoir à dire, on est droite dans nos bottes et on fait les choix qui sont importants pour nous. Ça n'a pas forcément d'incidence sur les autres, et même si ça en a, et que c'est important pour nous de respecter des choses qui sont alignées avec nous, dans le respect de chacun, bien sûr. Hein. Mais à partir de ce moment-là, je trouve ça trop fort et je trouve que c'est un véritable exemple. Donc ensuite, une série ou une actrice afrodescendante que j'adore, bah, je vais citer Viola Davis. Bon, franchement, je la suis sur Instagram, elle me fait trop rêver, je l'aime trop. Elle est tellement formidable, cette femme. Donc déjà, dans son personnage dans Murder, c'est vrai qu'on voit assez peu en fait, un personnage avec un personnage féminin, noir, avec une si grande complexité. Et en fait, on voit qu'elle se bat contre son passé et contre le deuil de son enfant perdu. Et ça, c'est ouf parce que c'est déjà une question qui est très peu abordée dans les séries. Donc, je trouve ça très fort. Puis après, dans le côté perso, c'est vrai que c'est une femme qui a adopté sa petite fille. Et c'est une femme accomplie, une mère assumée dans la vie. Enfin, moi, j'adore cette nana. Hein. Franchement, j'aime trop cette femme. Donc un livre préféré, j'ai envie de dire « Nous sommes tous féministes » de Chimamanda Ngozi Adachie. Et en fait, ce livre, c'est un coup de cœur parce que tout à l'heure, j'ai parlé de ma cousine Aude et en fait, ce livre a un lien avec elle. C'est qu'en fait, un jour, elle n'habite pas du tout dans la même ville que moi, mais un jour, en fait, elle a passé quelques instants ici et on s'est retrouvés un petit quelques heures. Et on a décidé de se faire une virée shopping. Mais on n'a pas fait une virée shopping en mode on achète des habits. On a été dans la plus belle librairie de Bordeaux et on s'est échangé des noms d'auteurs. Et là, elle m'a conseillé de lire ce livre-là, Nous sommes tous féministes. Et c'est vrai que, bah, du coup, il avait une nouvelle saveur, ce livre. Et puis après, dans ce que raconte le livre, je trouve génial parce qu'en fait, le livre, en fait, ça parle de comment l'écrivaine a dû appréhender le féminisme et se faire aussi une place en tant que femme noire. Mais aussi, en fait, on revient à la transmission, mais là, elle parle dans le livre d'imaginer un monde, en fait, nouveau, un monde plus équitable, avec plus de parité. Mais en fait, un monde plus équitable, ça se prépare. Et comment on fait pour préparer un monde plus équitable? Ben en fait, on éduque nos enfants, on éduque nos garçons dès le plus jeune âge. Donc là aussi, ça parle de transmission. Et ma cousine m'a transmis ce livre. Et moi, j'adore la manière dont c'est abordé par l'auteur aussi. Enfin, voilà, ce serait ce livre-là que j'aurais envie de recommander. Pour clôturer, tant que je serai noire, et je le dirai vraiment très très humblement, je ferai mon possible pour accompagner et sublimer, via mes illustrations, les femmes de toutes origines vers un épanouissement personnel. Moi, ça serait vraiment la plus belle chose et mon plus grand rêve.
Merci à Ambre pour ce bel épisode. Merci à vous, auditrices et auditeurs, car sans vous, le podcast n'existerait pas. Merci à Alice pour le super montage de l'épisode. Vous pouvez d'ailleurs la suivre sur son compte Instagram Les Belles Fréquences. Suivez aussi Tant que je serai noire sur Instagram et surtout, likez, partagez et laissez des petites étoiles sur Apple Podcasts. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode.